L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour l'atelier numérique, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno et l'économie numérique. Chaque samedi, vous le savez, 16h-18h. Je suis ravi de vous retrouver avec toute l'équipe de l'atelier qui sera là. Antoine Cyr pour le crash test tout à l'heure, mais aussi pour sa sélection de gadgets. Le Vue d'Asie, ce sera avec Jean de Chambure. Et pour nous accompagner durant ces deux heures, l'équipe de l'atelier. Aurore Géraud est là. Bonjour Aurore.
Salut.
Constance Guyon. Bonjour Constance.
Bonjour François.
Et une toute nouvelle que vous avez déjà pu découvrir il y a quelques temps de cela, c'est Cécile Puyardy. Bonjour Cécile.
Bonjour.
On va s'intéresser à toute l'actu vue par l'équipe de l'atelier dans un instant. Au menu aussi tout à l'heure avec Nathalie Doré qui est là aussi. Bonjour Nathalie depuis San Francisco.
Bonjour François.
Ça sera le Silicon Carnet, on va s'intéresser au futur de Facebook, je le disais, les cyber gadgets d'Antoine, notre focus startup, notre enquête de l'atelier, on va peut-être voir éclore la démocratisation de la réalité virtuelle dans l'éducation les amis. On va en parler avec Aurore et notre invité tout à l'heure. Un invité aussi exceptionnel, Cédric Villani, star des mathématiques qui sera avec nous. Lila Megrawa l'a rencontré. Éric Le Bourlou de la rédaction de 01net.com sera là aussi. On s'intéressera à toute l'actu vue par l'équipe de 01net tout à l'heure. Le crash test et le décryptage de Lila Megrawa. Et bien voilà, c'est parti. Soyez les bienvenus dans cet atelier numérique. Et on commence donc par l'actu vue par l'équipe de l'atelier. Et si nous commençons cette semaine par Constance Guyon?
Très bien.
Ça serait pas mal, non, Constance?
Ça serait pas mal.
Alors, on y va.
Alors, je vais parler d'un concept qui risque de révolutionner le monde du tourisme.
Ah.
Alors, en fait, ce sont des chambres d'hôtel pour lesquelles vous pouvez payer le prix que vous voulez. Alors, on connaissait
même
déjà
0
ça.
Euros.
Alors, 0 euros, ça risque d'être difficilement accepté.
Ouais. Hein, oui.
Vous connaissez sûrement les restaurants où vous pouviez décider du prix voilà, à la fin du repas, c'était un classique. Mais en fait, là, comme les hôteliers avaient souvent des chambres vacantes à cause d'annulations ou de basse saison, il y a des Polonais qui ont lancé leur start-up qui s'appelle FindBed, dont le concept, en fait, c'est de référencer toutes ces chambres qui sont libres. Et l'utilisateur, lui, il a juste à fixer son prix quand il se connecte sur l'application. Par exemple, je vais aller, je sais pas, à New York et payer 15 euros. Ce serait très très bon marché.
Ça, c'est une super affaire, surtout dans un 5 étoiles.
Sait-on jamais?
On ne sait jamais.
Alors ensuite, cette demande est envoyée à tous les hôteliers de la zone qui ont 3 heures pour accepter ou refuser le prix.
C'est eux qui acceptent en
qui
fait
acceptent
le prix.
Qui refusent. Et au bout de 3 heures, l'utilisateur se reconnecte. Et du coup, il voit toute la proposition des hôtels dans la ville qui ont accepté son prix. Il n'a plus qu'à choisir la chambre qui lui correspond à ce prix-là. Alors on peut se demander, est-ce que ça ne peut pas être ensuite étendu, par exemple, au transport, à des événements culturels, à plein d'autres domaines finalement?
Tiens, c'est étonnant. En fait, c'est
les enchères de la chambre d'hôtel.
Les enchères de la chambre d'hôtel. Et ça, donc l'appli est déjà disponible, c'est ça?
C'est en cours de financement.
C'est en cours de financement.
Levée de fonds, ouais. FindBed.
C'est une bonne idée. Après, il faut voir si les hôteliers acceptent.
Jouent le jeu aussi.
Vont accepter de jouer le jeu.
Je pense
que c'est
ça
qui fera la différence.
Pour pas donner la chambre à perte aussi. Ouais.
Aurore Géraud.
Oui. Alors moi, je vais vous parler de cette tendance qui est cette volonté des gens de reprendre le contrôle de leurs données. Alors, c'est une tendance qu'on voit se développer ces derniers temps. Et notamment, il y a une start-up qui s'appelle MindSense qui joue de cette tendance pour lancer son produit qui s'appelle Throttle. Désolé pour mon anglais approximatif. Où le but, c'est...
Ah, c'était de l'anglais, là? Pardon.
Ouais. Throttle.
Je savais pas trop. Ah là, c'est mieux.
Qui va permettre de libérer les adresses mail du trop plein de spam. Alors comment on fait ça? On met un plugin en fait à son navigateur et à chaque fois qu'on va s'inscrire pour une newsletter ou sur un site marchand ou non, un alias va se créer qui va en fait cacher votre adresse actuelle. Et donc cet alias va se créer et ce qui va permettre à la start-up de récupérer tous les spams qui vont émaner d'un site internet et qui va pouvoir vous les mettre en un seul digest que vous commanderez pour savoir, enfin, soit à une heure précise, soit un nombre précis, seulement pour $4 par mois. Alors c'est intéressant parce que donc du coup on reprend le contrôle de ces données et du trop plein de spam dans son adresse mail et notamment professionnelle. Et puis aussi ce qui est intéressant c'est que dans le futur on pourrait savoir quelle adresse internet vend vos coordonnées tout simplement.
Pas mal. Mais on en est où là? Ça existe
sans
déjà.
Sans
bêta test aussi.
Ouais.
D'accord. Nathalie Doré depuis San Francisco.
Oui, François, on parle beaucoup de futur de la mobilité, hein, ici, Détroit s'est déplacé vers San Francisco. Beaucoup d'innovations se passent. Et bien finalement, moi aujourd'hui, je vais revenir sur un concept assez vieux, sur l'autostop.
Ah.
Alors, quand on parle autostop à l'ère de l'économie du partage, eh bien, c'est finalement le concurrent de Uber, qui s'appelle Lyft, qui vient de lancer un nouveau service cette semaine, ça s'appelle Carpool. Et c'est donc l'autostop, on va dire, nouvelle génération. Alors, comment ça marche? En fait, Lyft propose aux San Franciscains qui vont travailler, donc là, ça s'adresse à monsieur tout le monde, et souvent, un San Franciscain qui va travailler, eh bien, c'est un San Franciscain qui prend l'autoroute, la fameuse 101 qui va dans la Silicon Valley, et ça veut dire bouchon. Eh bien, désormais, donc, ce San Franciscain qui vient travailler peut prendre un autostoppeur en cours de route. Donc, grâce à l'appli Lyft, il va le géolocaliser et il va pouvoir... Alors, Lyft, d'ailleurs, promet que l'autostoppeur est vraiment à quelques minutes de son trajet, voire sur son trajet. Donc, ça ne le déroute pas trop. Et en gain, le conducteur récupère 10 dollars. Mais finalement, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que du coup, le conducteur va pouvoir prendre la fameuse carpool, cette voie qui est réservée aux voitures ayant plus de 2 personnes à l'intérieur, et donc éviter tous les bouchons quand il va aller travailler le matin. Voilà, pour le passager, lui, c'est très simple. Il continue d'utiliser l'application mobile de Lyft. Il choisit d'être un autostoppeur et il paiera environ 4 à 10 dollars la course. Donc, vous allez me dire, cela existe déjà. Il y a déjà beaucoup d'applis mobiles de partage de voitures. C'est vrai, hein, dans la baie de San Francisco, on a Karma Carpooling, on a Sidecar. Donc, on a beaucoup d'applis. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'utilisateur reste dans cette appli de Lyft, hein, qui est concurrent de Uber. Donc, il a déjà toute son expérience client. Il peut choisir différents services. Donc, voilà, encore un acteur de la Silicon Valley qui parie sur l'expérience client qui est si importante pour les acteurs de la tech. Donc, on revient finalement à ces concepts des années 70, hein, de l'autostop, revu quand même un tout petit peu et corrigé avec notre époque.
Voilà, l'autostop géolocalisé en quelque sorte, hein, c'est ça. Hein. Merci
Exactement.
Beaucoup Nathalie. On enchaîne maintenant avec Cécile Puardi.
Alors moi, je vais vous parler d'un robot industriel qui se programme presque tout seul. Donc c'est un robot.
Ça commence bien déjà.
Exactement.
Cécile,
ouais. C'est un robot qui a été construit à Tokyo et c'est très simple. Vous lui donnez une tâche le soir, il aura appris comment la réaliser pour le lendemain matin. Donc comment fait-il? On lui demande par exemple de sortir un objet d'une boîte, de le mettre dans un autre endroit, et il va passer la nuit à essayer de réaliser cette tâche en filmant chaque étape de son processus. Dès qu'il réussit, dès qu'il échoue, il sait ce qu'il s'est passé, il s'en souvient et il affine son modèle d'apprentissage. Ainsi, en 8 heures, le robot s'est programmé tout seul à 90% et plus. Donc on imagine bien le temps en économie, en ressources humaines, car la programmation des machines de pointe comme ce genre de robot est vraiment très longue, très complexe.
Donc là, il apprend tout seul en fait.
Il apprend tout seul et au fur et à mesure qu'il apprend, il apprend à apprendre. Vous voyez, c'est le machine learning en fait.
Ah oui.
Précisons que ce robot a été créé par la société Fanuc, donc la société japonaise, et programmé par les programmateurs de Preferred Networks. Ils ont utilisé le deep learning, donc l'apprentissage par renforcement profond, et ils ont l'objectif d'aller encore plus loin, c'est-à-dire faire travailler plusieurs robots en même temps qui partageraient leurs connaissances au fur et à mesure. Donc vous imaginez, au lieu de 8 heures, on met 8 robots qui travailleront 1 heure et qui arriveront au même résultat. Donc si on met 100 robots, on peut aller de plus en plus loin. Le partage d'informations entre robots est appelé la cloud robotique et pourrait vraiment transformer le secteur industriel de demain.
Passionnant, merci beaucoup Cécile. Constance ?
Oui, alors moi je vais vous parler, vous connaissez sûrement la Smart Home. Alors maintenant je vais vous parler de Smart Window, enfin si on peut dire ça, voilà, la fenêtre connectée qui arrive. Alors c'est la marque Views Dynamic Glass, pour essayer dans l'excellent anglais comme Aurore, l'excellent accent, qui lance en fait des fenêtres assez atypiques dont la coloration varie selon la luminosité extérieure ou alors selon votre envie avec votre smartphone. Par exemple, s'il y a un soleil un peu fort, voilà, et qui réchauffe un peu trop l'appartement, on peut décider d'assombrir...
Donc ça peut pas être à Paris, ça déjà, hein. Oui.
Sait-on jamais, quand on a une chambre de bonne au 7e étage, parfois,
oui, ça peut marcher.
Ça arrive.
D'accord.
Voilà, on peut décider d'assombrir directement la fenêtre. Alors vous allez me demander, mais comment ça marche? Vous auriez raison. En fait, les vitres sont parcourues d'un petit courant électrique, mais qui est vraiment très très faible, et qui permet de modifier l'agencement des électrons à l'intérieur du verre, pour le rendre plus opaque ou plus transparent selon les besoins de l'utilisateur. Alors, ce qui est quand même intéressant en dehors, voilà, du côté sympathique de pouvoir être un peu plus à l'ombre, au contraire d'avoir plein de luminosité, c'est que ça permet de réduire la consommation énergétique de 20% en utilisant, par exemple, moins d'air conditionné, en ayant un appartement plus frais ou plus chaud, rien qu'avec les fenêtres. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez pratique quand on pense à tout le mouvement COP21, etc. en ce moment.
D'accord. Donc, on peut opacifier, mais aussi changer la couleur.
Du coup, c'est un peu plus sombre. Comme
d'accord,
un peu
c'est
les
un
fenêtres,
peu plus sombre.
Ouais, les vitres des voitures.
Je sais d'accord, les vitres teintées.
Ouais, voilà.
D'accord, très bien.
Comme un peu sur le plateau.
Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'on a des vitres qui sont légèrement teintées. Aurore.
Oui, alors on va parler tout à l'heure de réalité virtuelle dans l'éducation.
Oui.
Alors moi, j'ai une petite newsette sur la réalité virtuelle et notamment sur à l'occasion d'un anniversaire un peu triste et terrible, celui du 5e anniversaire du tsunami qu'il y a eu au Japon. L'université de technologique d'Aichi au Japon a développé en fait un système d'immersion pour apprendre aux gens à se débrouiller en cas de tsunami. Alors, en soi, c'est pas super joyeux. On est un petit peu dans la mise en perspective de ce que c'est. C'est-à-dire que les décors ont été reconstruits à partir d'images vraies, des dégâts.
Ça va être impressionnant, hein, quand même. Hein.
Ouais, tout à fait. Et le but, c'est vraiment de les rendre psychologiquement aptes à faire face
à ne pas paniquer.
Alors il y a plusieurs tout à fait, il y a plusieurs settings qui ont été mis en place, il y a trois scénarios différents, notamment il y en a un dans une voiture pour apprendre aux gens à ne pas paniquer en cas de tsunami et savoir conduire en cas de tsunami pour pas se sentir enfermé ou ne pas avoir peur de faire de mauvais gestes. On va avoir également donc toutes ces vidéos sont à 360 degrés avec des effets sonores. Maintenant, on pourrait l'imaginer pour des tremblements de terre, peut-être.
Mais alors, toutes les catastrophes naturelles.
Catastrophes naturelles. Maintenant, est-ce que c'est pas traumatisant?
Oui, c'est
la question qu'on se pose parce que une technologie comme ça, immersive.
Ouais.
Ouais.
Là, on est plus dans le divertissement. Voilà,
ouais.
C'est ça, c'est sûr. Merci beaucoup Aurore. On va poursuivre cet atelier numérique tout de suite avec notre vue d'Asie et Jean de Chambure comme chaque samedi.
Salut François.
Alors cette semaine, on va parler de la fin de la politique de l'enfant unique en Chine. C'est un événement, hein ?
Oui François, c'est un immense événement historique bien sûr. Ça a été annoncé donc à l'automne dernier. Comme tout grand changement, ça va prendre un petit peu de temps pour que ça se passe vraiment concrètement dans les mœurs, ne serait-ce que le temps de la naissance. Mais néanmoins, on voit qu'il y a déjà des impacts et des premiers chiffres qui sont sortis, notamment sur les classes moyennes urbaines, déjà un peu installées avec un premier job depuis quelques années. Donc ces générations sont prêtes à avoir un deuxième enfant. Alors ça va se traduire concrètement comment dans les chiffres au niveau national. En gros, la Chine espère passer de 16 à 20 millions de naissances par an.
Ah oui.
C'est énorme. Comme chiffre, à l'échelle du pays, c'est pas non plus si gigantesque. Hein. Je rappelle qu'il y a 1,4 milliard d'habitants. Mais enfin, c'est quand même très important. Et du coup, pourquoi est-ce que ça nous intéresse à l'atelier numérique? Eh bien, c'est parce que il y a un tas de marchés qui est en train de se développer, des différents marchés autour de la naissance et donc un certain nombre de start-up qui se positionnent pour profiter de ce marché.
D'accord.
Le plus prévisible, bon, c'est quand même les start-up qui se positionnent sur des produits pour enfants, les produits trans frontaliers. Bon, il y a eu pas mal de scandales liés au lait pour bébé, vous avez suivi ça. Hein.
Oui.
Bien sûr, il y a des startups qui se positionnent pour acheter des produits qui sont pas, hélas pour l'instant, fabriqués en Chine, hein, mais on espère que ce marché va revenir.
Mm-hmm.
Des startups comme Mia, des startups comme Baby, des startups comme Jumei, je vous épargne un peu tous les noms chinois qui sont un peu compliqués à retenir. Et bien enfin, c'est des startups qui ont levé des fonds cette année, plutôt l'année dernière, fin d'année dernière notamment, entre 100 millions de dollars et 300 millions de dollars pour développer leur business sur ce sujet-là, même si pour l'instant Alibaba et ses grands équivalents Didi et Suning détiennent 75% de part de marché. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième, assez innovant, c'est vraiment les objets connectés.
Mm-hmm.
On en avait de plus en plus. Ça aussi c'est très important parce que notamment les jeunes mamans ne bénéficient pas forcément toujours d'un accès facile et régulier à des cliniques, à des hôpitaux. Il faut savoir qu'en Chine, il y a à peu près, deux fois moins de médecins pour le nombre d'habitants équivalent à celui de la France. Donc voilà, il y a besoin de trouver des palliatifs. Donc il y a par exemple des détecteurs d'ultrasons pour fœtus. qui vont inclure des, notamment des bracelets connectés pour détecter des mouvements de premiers mouvements de fœtus. Il y a des mixeurs, alors ça sort là, une fois que l'enfant est né.
Ouais.
Des mixeurs de lait pour bébé, des thermomètres connectés. Et tout ça se passe par crowdfunding parce que c'est extrêmement porteur en Chine en termes d'investissement, mais également en termes de marketing.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de startups qui se font connaître avant même d'avoir vraiment vendu leurs produits, mais tout simplement parce qu'elles ont bien réussi à communiquer sur leur modèle d'investissement. Voilà, donc c'est un peu les startups de cette politique terminée aujourd'hui de l'enfant unique, puisqu'aujourd'hui on peut avoir deux enfants en Chine.
Ça va être le baby boom, hein, Jean, finalement.
Exactement.
Le Bibi Boom High Tech. Merci beaucoup Jean de Chambure. Jean de Chambure qui, vous le savez, est chaque samedi dans l'atelier numérique pour son billet depuis l'Asie, depuis Shanghai. Jean se retrouve la semaine prochaine et dans un instant, la suite de cet atelier numérique avec le Silicon Carnet. Cette fois-ci, on quitte l'Asie pour aller aux US avec Nathalie Doré. Et puis, notre sélection de gadgets de la semaine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans quelques instants, la sélection de cybergadgets d'Antoine Cyr, les amis. Mais auparavant, c'est notre Silicon Carnet avec Nathalie Doré depuis San Francisco qui est toujours avec nous. Alors Nathalie, on va parler de Facebook avec vous cette semaine. C'est vrai qu'ils organisaient leur conférence développeur F8. Mais que se passe-t-il chez Facebook, Nathalie?
Eh bien François, il se passe beaucoup de choses. Alors, il faut dire que Facebook avait mis la barre très haute en visant quasiment un monopole de plateforme et ils sont quand même en train de faire une année exceptionnelle. Ils ont été créés, comme vous le savez, en 2004 et Facebook aujourd'hui, c'est plus de 1,4 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. C'est 12 fois plus de revenus avec un chiffre d'affaires de 18 milliards en 2015. Alors Facebook ici épate et ils épatent pour plusieurs raisons. La première, c'est que Facebook résiste bien à toutes les tendances qui pourraient mettre à mal leur modèle.
Et oui, la première tendance à laquelle je pense, c'est la montée en puissance de la messagerie. Hein.
Tout à fait. Alors les gens passent de plus en plus de temps sur les outils de messaging hein, du type WhatsApp. Pas de problème pour Facebook. En octobre 2014, ils rachètent WhatsApp pour la coquette somme de 19 milliards de dollars. Et Facebook ne s'arrête pas là. Ils investissent derrière en parallèle sur leur propre outil de messaging Messenger en débauchant un an plus tard David Marcus, qui était alors président de PayPal. Et David Marcus est donc à la tête de Messenger et Facebook lui donne vraiment tous les moyens pour mener sa véritable petite entreprise à l'intérieur de Facebook.
Voilà, Messenger, première tendance. La deuxième tendance, Nathalie, on entend dire que les jeunes ne sont plus sur Facebook?
C'est vrai, et pourtant c'est faux. Un rapport de Comscore vient de sortir et met à mal toutes ces idées reçues, rappelant que si quasiment 100% des 18-35 ans utilisent Facebook, moins de 35% sont sur Snapchat. Donc voilà, ils utilisent bien Facebook. Mmh. Et au-delà du nombre d'utilisateurs, les jeunes passent 2,5 fois plus de temps sur Facebook que sur Snapchat. Donc les jeunes sont bien toujours sur Facebook.
Alors sur quoi d'autre se bat Facebook en ce moment, Nathalie?
Alors Facebook planche sur le futur de la communication et le futur du commerce. Car Mark Zuckerberg et son équipe veulent être incontournables. Ils investissent beaucoup actuellement sur l'intelligence artificielle, alors technologie qui sera d'ailleurs utilisée par M, leur fameux assistant virtuel personnel que Facebook est en train de tester aux États-Unis et qui devrait peser dans les prochains chiffres de commerce en ligne. Alors, sur ce thème de l'intelligence artificielle, Facebook a aussi racheté une start-up, Weave.ai, et a ouvert un centre de recherche en France, avec à la tête d'ailleurs un Français. Le sujet est stratégique pour Facebook. Quand on parle de futur de la communication, et bien ça rime aussi avec réalité virtuelle, haute technologie importante pour Facebook. Alors, qu'à cela ne tienne, Facebook, qui a racheté Oculus, vient de livrer la semaine dernière ses derniers casques de génération qui sont les Oculus Rift. Alors, les analystes sont unanimes, ce sera un vecteur de croissance pour Facebook, selon d'ailleurs Cantor Fitzgerald. D'ici 4 ans, donc c'est quand même très court, Oculus Rift pourrait représenter 10% des revenus de Facebook. Et quand on sait qu'en plus, environ 20% des développeurs annoncent être en train de travailler et de développer des jeux vidéo spécifiques à Oculus, on se dit que la part de revenus devrait en effet être belle.
Et on se rend compte que tout cela va bien au-delà du futur de la communication, hein, Nathalie?
Oui, les ambitions de Facebook sont très fortes. Ça fait d'ailleurs partie de la culture d'entreprise. Chaque collaborateur a des ambitions très très hautes, quitte à ne pas forcément toutes les remplir. Cela va au-delà de la communication. François, vous avez raison. On n'a pas assez parlé d'ailleurs de leur ambition sur le e-commerce. Et cela va aussi au-delà des frontières. On n'a pas eu le temps de parler de leur fameux projet Internet.org ou comment donner accès à Internet aux pays émergents. Là aussi, il y a beaucoup à dire. Ce sera donc pour un prochain Silicon Carnet, François.
Exactement. La saga Facebook ne fait que commencer. Merci beaucoup, Nathalie. Et on enchaîne tout de suite avec la saga des gadgetos d'Antoine Cyr. Une gadgeto qui vous tient à cœur, mon cher Antoine, puisqu'on le sait, vous détestez les sports mécaniques.
Hein, oui, bien
voilà,
sûr.
Voilà, bien sûr. Alors s'il y a bien, alors c'est pas tout à fait un gadget, mais c'est une tendance dans le domaine de la high-tech, c'est l'électrique. On le voit, elle arrive dans le domaine de l'automobile, voilà, pour le grand public, mais aussi dans le monde de la Formule 1.
Oui, alors d'abord, y a une chose que les gens ne savent pas, ou pas beaucoup, c'est que le sport automobile, c'est en fait un énorme banc d'essai des nouvelles technologies non polluantes. Vous savez, par exemple, qu'aux 24 heures du Mans, il y a des années que les voitures qui gagnent les 24 heures du Mans sont des voitures hybrides. Parce que, les règlements des 24 heures du Mans vous donnent des jetons de puissance qui vous autorisent, à exploiter un certain niveau de puissance. Et, selon, le degré d'hybridité de votre voiture, vous avez plus ou moins de jetons de puissance.
D'accord. Donc oui, là, c'était une nécessité de passer à l'hybride, en fait.
Ben, le règlement vous oblige à avoir voiture hybride
et
la
après,
plus poussée.
Toutes ces technologies arrivent dans le grand public.
Par exemple, les Porsche qui a gagné cette année les 24 heures du Mans fait de l'hybride dans ses voitures de série de plus en plus et a exploité une technologie hybride qui est absolument à l'avant-garde pour gagner les 24 heures du Mans. Mais donc l'hybride c'est une chose, il y a le tout électrique et donc il existe un championnat qui s'appelle le championnat de Formule E. Le concurrent du championnat de Formule 1,
d'accord.
Sachant d'ailleurs que les Formule 1 ont aussi un moteur hybride maintenant.
Et oui.
Mais la Formule E, c'est du tout électrique. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux premières années du championnat de Formule E ont été plutôt des réussites. Les constructeurs s'engagent, les spectateurs.
Est-ce que c'est l'avenir aussi, on peut dire. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce qu'à terme, ça peut remplacer la Formule 1?
C'est pas complètement impossible, d'autant plus que ce qui se passe, c'est qu'évidemment, comme l'électrique est vu par les villes comme une solution d'avenir, en plus, les organisateurs de la Formule E ont été très malins, parce que par exemple, toute l'électricité qu'ils utilisent pour leurs installations est produite à partir de matières renouvelables.
D'accord.
Enfin, il y a un discours marketing, mais qui repose quand même sur une utilisation systématique des technologies.
Va à l'encontre de la pollution qu'engendre la Formule 1. Donc on est vraiment
De la pollution imaginée qu'engendre la Formule 1, parce qu'en réalité, dans une Formule 1, dans un Grand Prix de Formule 1, l'essentiel de la pollution vient des voitures des spectateurs, comme dans un match de foot.
Oui, c'est ça. Mais en termes d'image, c'est vrai que
différent. Hein, mais la pollution réelle d'un Grand Prix de Formule 1, elle est pas supérieure à celle de n'importe quel autre événement sportif. Mais donc ce qui s'est passé, c'est que par exemple à Londres, on a eu un Grand Prix de Formule 1 qui s'est très bien passé. Et là, quand même, la ville de Paris s'est dit, Londres a fait une formidable opération avec ce Grand Prix dans la ville de Londres, qui a beaucoup plu. Et donc, ils ont accepté pour 2016 d'organiser un Grand Prix de Formule E qui va se dérouler le 23 avril et qui va se dérouler devant les Invalides, sur l'esplanade des Invalides. Donc, dans un lieu évidemment ultra public et ultra familier des Parisiens. Apparemment, les places, c'est pas encore très clair, mais enfin, l'accès sera assez facile pour un large public, et les places ne vont pas être vendues très cher, quoi. Ça va être, là, pour le coup, la possibilité d'accéder à un grand spectacle de course automobile pour un prix raisonnable. Un grand spectacle de course automobile, parce que les voitures vont à 230 km/h, et parce qu'on a des grands pilotes. Hein. La plupart des pilotes qui courent en Formule 1 sont des pilotes qui étaient en Formule 1 il y a un ou deux ans, ou qui seront peut-être en Formule 1 dans un ou deux ans.
Ça va être intéressant de voir justement l'évolution de cette technologie, l'électrique, dans la Formule E. Et est-ce que ça remplacera peut-être la Formule 1 dans quelques années? On verra bien. Merci Antoine. On revient dans un instant. La suite de l'atelier numérique, c'est dans une minute sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Savez-vous que l'on peut payer par mobile et par selfie? Non, non, c'est pas des bêtises. On va en parler dans quelques instants, ça sera notre web stratégie. Et puis dans une minute aussi, on évoquera dans notre enquête de l'atelier la réalité virtuelle et l'éducation. Mais auparavant, notre focus start-up. Aurore Géraud, vous nous faites découvrir Faciligo cette semaine.
Alors nous sommes à Montpellier de nouveau pour ce focus start-up. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Inde et Mad. Inde, bonjour.
Bonjour.
Qui va nous présenter sa plateforme qui s'appelle Faciligo.
Alors Faciligo est une plateforme web de mise en relation de voyageurs à mobilité réduite avec des voyageurs autonomes. L'objectif, c'est donc de les mettre en relation lors de déplacements ou voyages. On est parti du constat qu'aujourd'hui, des personnes à mobilité réduite qui peuvent être des personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap ou encore des enfants, dépendent à plus de 90% de leurs proches lors de voyages et de déplacements. L'objectif est donc de leur rendre leur indépendance vis-à-vis de ses proches, qui ne soit plus soumis à la disponibilité de ses proches pour se déplacer, en trouvant quelqu'un qui effectue le même trajet, avec qui ils auraient des centres d'intérêt communs, ou encore avec des compétences en fonction du besoin qu'ils ont, notamment lié à un type de handicap particulier.
Comment fonctionne votre plateforme? Comment je me mets en contact avec quelqu'un qui pourra m'aider, peut-être, je ne sais pas, à porter ma valise ou autre chose?
On a deux cas de figure. Soit on est une personne âgée et on ne va pas naviguer sur le web, on n'est pas habitué à aller surfer sur le web. Donc on va mandater un proche qui va être l'intermédiaire. L'intermédiaire va pouvoir créer un compte pour la personne qui va être accompagnée et ensuite choisir la personne qui fait le même trajet et ensuite suivre via des notifications le trajet, l'accompagnement, pour enfin mettre un avis, une note par rapport à cet accompagnement. Si on est une femme enceinte ou une personne en situation de handicap, une personne malvoyante ou malentendante, on va pouvoir se connecter à la plateforme qui est accessible notamment aux malvoyants et qui pourra donc de la même manière faire une rencontre tout en voyageant moins cher, puisqu'en fait c'est une solution gagnant-gagnant. Lorsqu'on est accompagné par un proche, l'existant aujourd'hui, on va payer un billet pour soi et un billet pour son proche. Parfois même le proche va devoir se payer un billet pour venir jusqu'à nous et nous accompagner. Avec Faciligo, on va pouvoir payer son billet, une partie du billet de celui qui l'accompagne, et donc faire une économie par ce billet-là. On peut avoir des rencontres intergénérationnelles, avoir une activité particulière à bord du train, être aidé lors de la montée, à la descente, être guidé si on prend l'avion et qu'il y a des escales, si on ne parle pas la langue du pays, suivre un voyageur qui effectue le même trajet et avec lequel on va être rassuré, qui va pouvoir nous apporter cette aide nécessaire au déplacement. Il faut savoir que la France et l'Europe aujourd'hui font face à un vieillissement de la population, à un grand défi. Donc demain, il va y avoir de plus en plus de besoins à ce niveau-là. Aujourd'hui, il n'y a aucune solution pour cela. Nous avons identifié un certain nombre de personnes en situation de handicap qui se retrouvent contraintes de poster une annonce sur le Bon Coin pour trouver un accompagnateur. Voilà, Faciligo va pouvoir être la plateforme unique où on va pouvoir identifier quelqu'un qui fait le même trajet, avec qui on pourra avoir un échange, avec qui on va pouvoir sympathiser tout en réduisant ses coûts de voyage, donc la Smart Mobility.
Alors qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite?
Alors beaucoup d'utilisateurs, parce que atteindre un volume d'utilisateurs ça prend du temps. On va s'appuyer sur un certain nombre de partenaires, de prescripteurs pour pouvoir atteindre ces différentes cibles, parce qu'il y en a plusieurs. On est partenaire SNCF puisqu'il y a entre 4 et 6 millions de voyageurs qui ne prennent plus le train par manque de solutions d'accompagnement. Il faudra notamment communiquer auprès de ces usagers pour leur faire connaître le service, tout en créant un réseau de confiance via un système d'avis, de notation, de recommandations. L'idée, c'est aussi de pousser à davantage de mobilité, que ce soit à l'intérieur de la ville, dans les transports urbains ou dans les transports pour des longs voyages, pousser à des sorties culturelles, rendre accessibles certains lieux qui ne le sont pas aujourd'hui via l'accompagnement, l'intervention d'une tierce personne qui pourra rendre ces lieux du coup accessibles.
Merci beaucoup Inde.
Merci beaucoup Aurore. Aurore qui est aussi dans ce studio et qui va piloter maintenant notre enquête de l'atelier de cette semaine. Aurore, on va parler de la démocratisation peut-être de la réalité virtuelle dans le domaine de l'éducation avec notre invité.
Oui, alors que la version commerciale de l'Oculus Rift se fait toujours attendre, oui, hein, chez les primo-acheteurs, apparemment pour des raisons de
pénurie inattendue de composants.
Ouais, d'ailleurs, pour se faire pardonner, ils offrent les frais de port,
oui,
vous avez vu.
Même ça, internationaux,
c'est
sympa. J'ai vu.
Ouais, c'est gentil.
C'est gentil. À l'Atelier Numérique, du coup, on a décidé de se concentrer sur ce que l'avenir nous réserve concernant ce type de système immersif, et plus particulièrement dans le domaine de l'éducation. Mmh. En effet, le marché de la réalité augmentée seul pourrait atteindre 120 milliards de dollars de revenus en 2020, quand celui de la réalité virtuelle s'élèverait à 30 milliards, selon les prévisions de Digicapital. Si les chiffres ne sont pas encore présent, on va dire très présent dans le domaine particulier de l'éducation. On a peu de retours pour le moment. Le nombre de startups se lançant sur le marché est énorme et ça apparaît comme un bon indicateur concernant le potentiel de ces technologies. Et donc pour en parler aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Yann Froger qui est président de Ion Reality. Yann, bonjour.
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 Et qui donc est une entreprise qui mise sur la réalité virtuelle pour apporter un nouveau type d'enseignement dans les classes. Pas uniquement.
Oui, on va dire que pas uniquement. Réalité virtuelle, réalité augmentée.
Augmentée également.
Et la 3D de manière générale.
Alors ça serait peut-être pas mal de faire un petit récapitulatif. C'est quoi la réalité virtuelle? C'est quoi la réalité augmentée? Quelle est la différence entre les deux? Pour tous les nuls qui nous écoutent. Bon, il y en a quelques-uns, mais c'est normal.
Bon, pour dire les choses très simplement, la réalité virtuelle, c'est quelque chose dans lequel on peut s'immerger. Grâce notamment à des casques, mais on peut s'immerger de différentes manières. On a des cubes immersifs, on a des dômes immersifs, on a des petits systèmes, des grands systèmes. L'idée, c'est de rentrer dans une réalité dans laquelle, avec laquelle on peut interagir.
D'accord, mais qui n'est pas celle qu'on vit qui est une sans les lunettes. D'accord, voilà.
Totalement différente.
Okay.
Voilà. La réalité augmentée, c'est autre chose. C'est le fait de contextualiser ou de superposer une couche d'information à votre réel. Donc, mettons, je vais utiliser un device qui va me permettre de prendre cette zapette-là,
oui,
et qui va me dire quel est le fabricant, quelles sont les fonctions, et ainsi de suite, et je peux appeler la fonction directement.
D'accord, donc je vais avoir des informations qui vont apparaître en plus de ce qui se passe véritablement.
Dans le réel.
Voilà. Je contextualise l'information dont j'ai besoin.
D'accord.
Voilà. Et ce qui explique d'ailleurs la différence de chiffre d'affaires prévu entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Il y en a une qui est beaucoup plus proche de notre réel quotidien que l'autre.
D'accord.
Donc du coup, il y a beaucoup d'experts s'accordent à dire que dans les prochaines années, on va voir exploser la réalité virtuelle, alors qu'on voit en contrepartie qu'il y a peu de choses, en tout cas dans le domaine de l'éducation, qui sont installées, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Est-ce que c'est une vision que vous partagez, le boom?
Alors, non seulement je la partage, mais il y a deux semaines, on a fait, dans le cadre du Laval Virtual, une conférence sur la vision future de ces technologies. Et donc, on avait des experts qui venaient du monde entier et qui étaient d'accord pour dire une chose, c'est qu'on va vers une dématérialisation. C'est-à-dire que les devices vont disparaître quelque part. Et que deuxième chose, c'est la prochaine technologie de rupture. Donc, c'est-à-dire que la révolution qu'on a vécue grâce au téléphone portable, eh bien, ça, on va la vivre de même ordre avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée.
Quand vous dites que les devices vont disparaître, quel type de device? Pour qu'on comprenne bien. Téléphone portable.
Le téléphone portable va, à terme disparaître et on va aller vers des wearables.
D'accord. Donc, on peut imaginer que le téléphone portable sera dans nos lunettes, par exemple.
Par exemple, ou dans une autre interface, vous savez, aujourd'hui, il y a déjà des micro-projecteurs, des pico-projecteurs qui permettent de projeter dans l'œil, sur la rétine.
Ah oui, ah on en a parlé en news il y a un petit moment, effectivement. Ou des technologies laser même qui permettent effectivement de voir mieux ou ce genre de choses.
Exactement.
Oui. D'accord.
Donc, du coup, vous comparez l'adoption des technologies de réalité virtuelle à celui du smartphone. Dans quel sens? Est-ce que c'est quelque chose qui va être notre quotidien?
Ça sera notre quotidien. Ça va devenir notre façon de nous interfacer avec l'information et de l'appeler, de l'utiliser et finalement. On va vers un monde où l'information va représenter une valeur plus que le support sur lequel elle est déployée.
Bah parce que du coup, il y aura quasiment plus de support.
C'est pas nécessaire. On va vers la valorisation des contenus. Aujourd'hui, on vit la même révolution que celle qu'on a vécue avec les télévisions, par exemple. Quand on est passé à la couleur, il a fallu des contenus couleurs. Là, c'est la même chose.
Et du coup, on parle encore de smartphones. Est-ce qu'on peut imaginer que ça pourrait être adopté par les pays émergents de la même manière? En manière en termes d'éducation.
Oui, alors non seulement c'est le cas, mais en plus ils sont en avance sur nous là-dessus, puisque leurs réseaux sont plus denses, ils sont plus modernes. Souvent, ils sont structurés de façon plus, enfin, en ayant beaucoup moins d'historique pesant derrière eux.
Une culture mobile qui est plus encore plus forte que la nôtre.
Une culture mobile est énorme. Hein. Si vous essayez d'appeler au Burkina Faso, vous n'allez pas avoir un téléphone fixe. Vous avez des numéros mobiles.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Le paiement est en avance, etc. Là-bas.
Tout. Donc, il est évident que là, il y a un champ pour le déploiement des technologies, mais aussi des contenus, qui est énorme. Et quand on compare le prix d'utilisation de l'information sur un support papier au prix final d'utilisation sur un support digital, ben, il n'y a pas de comparaison. Donc, on est beaucoup plus dans la pérennité et l'efficacité du transfert d'informations.
Et du coup, les smartphones, c'est le minimum qu'on doit avoir en matière de hardware pour voir de la réalité virtuelle.
Smartphones, tablettes, toutes ces technologies-là aujourd'hui. Mais on peut faire de la réalité virtuelle associée à Windows. Hein, c'est ce qui se fait avec un Oculus branché sur un système Windows.
Donc ça, ou des cardboard aussi.
Des cardboard, ça va littéralement du cardboard à un device à 3€ jusqu'à des systèmes comme le Vive qui viennent de sortir, qui valent 900€ ou 1000€. Donc il y a tout un choix. Hein.
Et donc vous développez un logiciel qui s'appelle Ion Creator, qui s'adresse notamment aux enseignants, mais également aux étudiants, je crois. Est-ce que vous pensez que c'est aux enseignants d'impulser cette technologie en milieu scolaire ?
Alors, je ne pense pas que c'est aux enseignants de l'impulser. Je suis sûr que s'ils ne sont pas promoteurs, il n'y aura pas d'adoption.
Oui, il faut qu'ils soient partie prenante de cette volonté, autrement ça ne marchera pas.
C'est exactement ça. Oui. Donc, ils ont un rôle de prescripteur notamment à jouer. Il y a un rôle de prescripteur institutionnel en France qui est très important, qui est reconnu aux professeurs. Alors, ça pose le cas du niveau national et du niveau international. On pourra peut-être en parler ensuite. Mmh. Mais au niveau national, pour moi, il est évident que les profs doivent être prescripteurs avant de pouvoir déployer des systèmes sur, aujourd'hui, du hardware qui a été massivement acheté. Parce qu'aujourd'hui, on parle de milliers et dizaines de milliers de tablettes qui sont à disposition.
Bon. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement, d'applications qu'on pourrait voir arriver, ou dans les lycées, les écoles, ou les facs, avec ces systèmes-là?
On a lancé, nous, une plateforme, il y a une quinzaine de jours, qui s'appelle Ion Creator AVR. Donc, le principe, c'est quoi? Le principe, c'est d'utiliser les possibilités du 3D pour remplacer tout ce qui est cours pratique. Donc, vous pouvez disséquer une grenouille, vous pouvez la manipuler, vous pouvez la voir et la partager en réalité augmentée, vous pouvez la voir en réalité virtuelle. Bref, vous avez la possibilité de structurer un parcours d'apprentissage.
Donc, on n'est plus obligé d'avoir de vraies grenouilles, en plus. Mais
en plus.
Voilà.
En plus.
Accessoirement.
Et on n'est pas obligé d'être sur place. Non plus,
voilà.
Et on peut partager, justement. Alors, Ion Creator produit et donne des leçons de base, avec des parcours d'apprentissage, des quiz, des choses de base. Bon. Il est associé à un module qui permet aux enseignants d'enrichir, sans avoir de connaissances informatiques, quelles qu'elles soient. Donc vraiment, par du drag and drop, directement sur un écran, les contenus. Donc ils pourront rajouter des liens, ils peuvent mettre des contenus YouTube, ils peuvent mettre du Wikipédia.
Donc le tableau devient infini, quoi. On peut finir.
Voilà, salle de infini. Classe, hein, presque.
Et alors voilà. Et donc la dernière étape, c'est de faire une salle de classe collaborative. Mmh. Donc nous, en plus, on a un logiciel qui s'appelle Coliseum, qui permet aux personnes qui sont inscrites sur la même salle de classe de partager le cours à ce moment-là. Et donc tout le monde est capable finalement de partager le même parcours d'apprentissage en même temps. Et bien entendu, il faut que ça soit lié. C'est lié à un système qui retourne l'utilisation au professeur pour que lui puisse suivre et piloter le progrès de ses élèves. Et donc on a créé une salle de cours virtuelle.
D'accord.
Et donc du coup, si le professeur est prescripteur, quelle est la place de l'État dans tout ça?
L'État se doit d'assurer que les investissements soient faits et que les technologies soient disponibles pour tous, mais aussi l'État doit être support de l'apprentissage. Il doit permettre à l'ensemble des professeurs d'avoir accès à ces technologies et de pouvoir les maîtriser, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Mais dans le cadre du territoire sur lequel on travaille à Laval, et qui d'ailleurs aujourd'hui qui demande le label French Tech pour son environnement réalité virtuelle et réalité augmentée, qui a presque 20 ans d'existence aujourd'hui, eh bien, on veut, nous, mettre en place un espace de test soutenu par l'État, bien entendu, mais aussi, si possible, un centre de formation à ces technologies.
Oui.
Voilà, pour en assurer la diffusion.
À votre avis, quels sont les types d'élèves qui seraient le plus sensibles à ce type d'éducation?
Les niveaux, voilà. Même les thématiques.
Hein. Les plus jeunes, ou alors ça peut aller voilà de la maternelle jusqu'à l'étudiant en fac ou... Alors,
dépendant de la façon dont c'est fait, ça va de la maternelle à la fac. Mais je dirais que plus on va vers des notions complexes, plus il faut travailler, donc c'est difficile. Les choses sont plus accessibles plus jeunes. Mais hormis certains sujets un peu compliqués comme la littérature, etc., ça s'applique à tous les domaines, parce qu'on est dans l'utilisation des trois dimensions. Et donc on acquiert beaucoup plus facilement les notions, le savoir, quand on le manipule en trois dimensions.
Oui, c'est ça. Et ça le rendra peut-être aussi plus ludique, non ?
Beaucoup plus ludique. Savoir. Tout ça doit être gamifié. Mmh. Alors c'est entre guillemets, parce que le terme personne n'est d'accord avec, mais ce que ça veut dire, c'est que ça doit être amusant d'apprendre. Et on doit pouvoir aussi échanger sur les résultats. On doit pouvoir faire du collaboratif en se challengeant quelque part à apprendre.
Vous voyez ? Et ce type d'enseignement, à votre avis, va se démocratiser quand ? À quel horizon ?
Nous, on parie que ça va se démocratiser dans les 3-4 années qui viennent. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, on a un programme international dans lequel on travaille avec les Nations Unies pour produire et mettre à disposition des salles de classe dans le monde entier, ces types de plateformes pour l'équivalent d'une boîte de coca par élève.
Oui.
Où que ce soit dans le monde. Donc en plus, on va vers une démocratisation du savoir formidable qui nous pousse vers l'économie du savoir. Voilà, c'est ça le vrai impétus aujourd'hui.
Merci beaucoup Yann Froget. Rappelons que vous êtes président de Ion Reality. Merci beaucoup.
Merci
à vous.
On revient dans un instant avec notre web stratégie. On retrouvera Lila Megrawa. On va parler de paiement par selfie. Et puis juste après, un invité exceptionnel puisque Cédric Villani, qui est star des mathématiques, sera avec nous dans cet atelier. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Dans un instant, une rencontre exceptionnelle. Lila Megrawa a rencontré Cédric Villani, qui est star des mathématiques. On va le découvrir dans quelques instants. Mais auparavant, c'est notre web stratégie. On va parler, écoutez bien, de paiement par selfie. Du paiement par selfie sans contact. On en parle avec vous, Lila, et votre invité.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui, François. Alors pour cette web stratégie, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bart Willaert. Bonjour.
Bonjour.
Alors Bart Willaert, vous êtes directeur général de Mastercard en France. Vous aviez un énorme stand au dernier Mobile World Congress. Alors vous avez annoncé plusieurs choses ou rappelé plusieurs choses, paiement par reconnaissance faciale, par reconnaissance digitale, sans contact. Mastercard multiplie vraiment les expérimentations en matière de paiement. Et comme je disais, vous misez tout particulièrement sur le sans contact. Pourquoi ?
Je pense que pour nous, le sans contact, c'est vraiment une révolution qui s'est en train de faire pour l'instant. Donc c'est très pertinent pour tous les consommateurs, ici en France, partout en Europe. Si on regarde maintenant en France, il y a 2 cartes sur 3 qui est équipé avec le sans contact. Il y a déjà 25% de marchands qui est équipé avec le sans contact. Donc c'est quand même déjà une échelle très pertinente pour le consommateur français. Et d'ailleurs aussi en Europe, c'est très pertinent. Maintenant, Mastercard a déjà traité plus que 1 milliard de transactions sans contact. Donc quand même, ça devient déjà une échelle.
Cette année ?
En 2015. Donc 2015, on a traité 1 milliard de transactions. C'est une croissance de 150% par rapport à 2014. Donc je pense maintenant on peut vraiment parler d'une révolution sans contact pour le consommateur. C'est très pratique, facile à utiliser. Il y a aussi de plus en plus des applications pertinentes dans la journée de chaque jour du consommateur.
On l'a dit, à la fois vous permettez le paiement par reconnaissance faciale ou par reconnaissance digitale, donc soit par selfie. Le paiement sans contact, pour vous, sur quoi vous misez ?
Donc je pense qu'il faut vraiment voir plusieurs étapes dans cette révolution numérique. Donc maintenant, dans la première phase, le sans-contact est très bien déployé partout en Europe et aussi en France. Après, on va voir de plus en plus des objets et des différents outils de paiement. Notamment le mobile, c'est le premier objet connecté, comme on disait. Donc là, on va avoir de plus en plus de solutions, de parcours différents pour les clients qui va utiliser l'infrastructure sans contact. Donc c'est pour ça que c'est très important maintenant d'avoir cette infrastructure en place qui va permettre aussi d'avoir de nouveaux parcours clients, de nouveaux outils pour faire le paiement, notamment le mobile. Et donc là, on va voir de plus en plus de solutions mobiles qui vont exister dans le marché, des nouveaux acteurs aussi qui vont arriver. Et ce qui est très important c'est, pour nous, c'est en même temps d'avoir cette facilité, cette d'usage pour le consommateur, mais en même temps d'avoir des solutions qui sont très sécurisées. Donc je pense en combien.
Alors comment comment on s'assure d'une sécurité?
Voilà, donc il y a énormément de travail en cours sur ce domaine-là. Mastercard met en place plusieurs briques. Je pense que une des briques, c'est une brique technologique, et nous on appelle ça les tokens. Ce sont en France les jetons. Donc c'est vraiment c'est un numéro associé à chacun de ces objets de paiement. Donc c'est un numéro unique qui, au lieu d'avoir votre numéro de carte qui circule dans tout l'écosystème, vous avez des numéros uniques associés avec chaque objet. Et ça va permettre d'augmenter la sécurité. Donc c'est un exemple de niveau de sécurisation. Je pense que le deuxième, c'est comme vous l'avez mentionné déjà, c'est toute l'authentification avec des solutions biométriques. Et donc en ce stade-là, on a fait des pilotes notamment aux Pays-Bas avec ICIE sur ce qu'on appelle le Selfie Pay. C'est quelque chose qu'on a aussi annoncé à Barcelone cette année-ci. Et là aussi, je pense qu'on combine très bien faciliter la praticité pour le consommateur de payer, de s'authentifier au lieu d'entrer des mots de passe et de toujours avoir cette contrainte-là, très facilement de prendre un selfie, soit de prendre une empreinte digitale pour payer. Donc on va de plus en plus voir des solutions biométriques dans le marché en Europe. Ça va avoir une nouvelle révolution et ça va être beaucoup plus simple pour payer à la fin.
On a eu à ce micro le patron du groupe lastminute.com et qui nous expliquait qu'en fait dans son secteur, lui réfléchissait à rendre l'expérience client tellement simplifiée qu'on pourrait rendre le check-in donc simple. On garderait son smartphone en poche, on passerait simplement grâce à des beacons. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pourrait rêver demain, ce smartphone qui resterait dans notre poche et qui serait notre carte bancaire?
Je pense que c'est vraiment au début de cette révolution, donc c'est tout à fait vrai. Pour l'instant, on est au début de toutes les possibilités qu'on va voir dans le futur. Donc évidemment, le parcours, c'est pour simplifier le paiement, pour simplifier le parcours du client, mais aussi pour ajouter de la valeur. Donc c'est pas juste pour remplacer une technologie par l'autre. Est-ce que ça va maintenant dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de d'authentification? Certainement, juste avoir son portable, ça sera suffisant. Je pense qu'il y aura toujours cet équilibre entre la sécurité et l'usage. Donc pour l'instant, c'est pas encore possible. On a encore besoin de quelque part de notification à un certain niveau, mais si dit, je pense que pour certains cas d'usage, si c'est dans des montants limités où il y a déjà des parcours clients où le client s'est déjà authentifié, peut-être ça sera possible. Donc il faut jamais dire non pour l'instant. On est tout début de cette révolution et pour nous c'est important de faciliter ça.
Les objets connectés, je pense notamment à certains objets, certains assistants virtuels qui commencent à faire leur incursion dans notre quotidien, nos vies. Je pense à Amazon Echo, demain Google Now. Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez également de près?
Oui, pour nous, on va vraiment vers un monde qui a beaucoup d'objets connectés. Il y a des surveys marchés qui disent qu'il y aura un de 30 milliards d'objets connectés en 2020. Donc, c'est énormément d'objets qui sont connectés en permanence. Nous, on va clairement, ce sont des objets qui pourra faire des paiements. Et pour ça, Mastercard facilite ce paiement. Donc pour nous, sûrement, ce sera un monde possible avec des paiements dedans. Mais quel type de bien vont avoir. Il y en a plusieurs. Maintenant, il y a des bracelets, il y a des accessoires, il y a des bijoux, il y a des réfrigérateurs, il y a des voitures. Donc, on peut imaginer énormément d'objets. On suit ça. Pour nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de permettre une solution sécure, sécurisée dedans, dans cet objet. Donc, j'ai expliqué un petit peu qu'on connaît maintenant les tokens, hein, les jetons dedans. Et ça, on va aussi permettre d'avoir plusieurs objets qui facilitent ce paiement. Donc oui, sûrement on va connaître cette révolution et on suit ça de très proche. On a notamment récemment annoncé un partenariat avec un nouveau bijou de Bulgarie qui sera un objet connecté. Ça, c'est un exemple de ce type de bijou qui est un objet. Et on a aussi récemment annoncé le réfrigérateur avec Samsung, qui est un autre exemple d'un objet connecté.
Bart Willaert, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur général de Mastercard en France. Merci.
Lila, merci. On revient dans un instant à la suite de cet atelier. Avec une passion selon Sanet exceptionnelle, Cédric Villani répondra aux questions de Lila Megraoua. C'est un mathématicien de renom. À tout de suite.